Radio G. www.radio-g.fr.
Simple couleur de micro et tout est réglé. Donc bienvenue dans la mission Assiette pour 3. Donc je répète, bienvenue dans l'émission Assiette pour 3. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 avec Assiette pour 3, l'émission proposée par les AMAP du 49. Pour ceux qui découvrent, une AMAP est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Elle regroupe des paysans et des consommateurs. Cette association permet aux paysans de vivre décemment de leur travail et aux consommateurs d'acheter des produits locaux, sains, cultivés sans herbicides, sans insecticides, sans produits chimiques de synthèse. Aujourd'hui, je vous invite à naviguer dans le monde des labels. Les labels qui apparaissent sous les étiquettes des produits biologiques pré-emballés. Sujet parfois complexe pour un néophyte, mais que nous allons défricher et éclaircir avec nos invités. Nos invités qui sont Francine Frelon, bonjour Francine.
Bonjour.
Et Nicolas Asbrook, bonjour Nicolas.
Bonjour.
Je vous demander de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, si vous avez besoin de dire que, voilà, surtout Nicolas qui veut parler le premier, je vois.
Oui. Donc Nicolas Asbrook, je suis maraîcher en bio. Et Nature et Progrès, à la Membrolles-sur-Longuenée, et donc maraîcher en AMAP.
Et Francine ?
Francine, moi je suis consommatrice à l'AMAP de la Goutte d'Eau à Brun-sur-Lontion, et à d'autres AMAP aussi d'ailleurs, je mange partout moi. Et plus généralement, je m'occupe de la diffusion des informations auprès de toutes les AMAP du Maine-et-Loire.
Donc nous allons commencer par parler des labels. Première question, donc, qu'est-ce qu'un label ? Nicolas ?
Qu'est-ce qu'un label ? Donc, c'est une certification en fait qui permet d'assurer une certaine sécurité, certains critères concernant les produits qui sont vendus.
Et donc, quels sont les différents labels que l'on peut trouver sur les produits pré-emballés qui sont vendus en agriculture biologique ?
Alors, donc déjà le label européen qui est le label agriculture biologique. Le label Nature et Progrès, le label Biocohérence, le label Déméter également pour l'agriculture biodynamique. Voilà, je pense que peut-être que j'en oublie d'autres.
On pourrait parler du label AB aussi, qui est la déclinaison française du label européen.
Tout à fait.
Francine, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais ajouter que ces labels, ils ne sont pas présents uniquement sur les produits pré-emballés, mais également sur les marchés, dans nos AMAP, partout où il y a des ventes de produits, en fait.
Tout à fait. Donc, pour les auditeurs, je ne sais pas si les auditeurs connaissent tous ces labels, on a apporté quelques précisions. Donc, quelles sont les garanties apportées par tous ces labels ? Les garanties qui sont communes à tous ces labels. Quelles sont les garanties de base que chaque consommateur est assuré de trouver dans un produit labellisé agriculture biologique ?
Alors déjà, c'est l'absence de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc on cultive sans intrants chimiques. Ça, c'est déjà la base. Et ensuite, donc tout ce qui est maintien du sol, rotation des cultures, les pratiques d'engrais verts, les engrais verts pour maintenir la fertilité des sols. Voilà, la gestion des intrants, en fait, où il faut en fait que les intrants, donc qu'ils soient des engrais ou des semences, soient d'origine biologique.
Donc un produit qui comporte ce label-là, le consommateur a donc une garantie de qualité certaine, quel que soit le label présent sur le produit.
Oui, de par les contrôles qui sont effectués donc sur l'ensemble de la filière par les organismes certificateurs pour ce qui est du label européen.
Est-ce qu'on peut donc évoquer un peu quel type de contrôles sont effectués pour garantir ce label, pour que le produit puisse être labellisé, nous dire un peu quels genres de contrôles sont réalisés, oui.
Donc toujours au niveau du label européen, en fait, il y a généralement deux contrôles qui sont effectués chaque année chez les producteurs. Donc un contrôle prévu à l'avance, un petit peu sur rendez-vous, où en fait l'ensemble de la ferme est étudié. Donc ça passe par l'étude de la comptabilité, les parcelles, relevés cadastral, les différents cahiers de culture. Donc les amendements qui ont pu être faits sur les parcelles, les traitements qui ont pu être faits, puisqu'il peut y avoir des traitements autorisés en bio. Donc tout ça à partir de la comptabilité et des documents de la ferme. Également un tour des parcelles. Et puis une autre visite qui est ce qu'on appelle un contrôle inopiné, qui est également fait par le contrôleur, mais là sans rendez-vous, ou alors avec un rendez-vous qui est pris juste quelques heures avant, de manière à vérifier les pratiques, mais de manière tout à fait impromptue, quoi. Voilà.
D'accord. Et qui effectue ces contrôles ?
Donc pour ce qui est du label européen, on parle d'une certification par tiers, donc ce sont des sociétés privées dont le métier est de faire des contrôles. Donc en fait, l'agriculteur paye pour se faire contrôler et paye donc pour sa certification.
D'accord. Et donc est-ce que tous ces contrôles sont toujours effectués par un organisme extérieur ? Il y a d'autres...
Alors, donc toujours dans le cadre du label européen, oui, c'est bien par un organisme extérieur, une entreprise privée, pour pas la nommer Ecocert, qui détient à peu près 75% du marché de la certification. Après, il y a quelques autres organismes qui se partagent le reste de ce marché. Et pour les autres labels, donc notamment pour le label Nature et Progrès, on parle du SPG qui est en fait la certification, donc le contrôle. J'ai perdu le
système de participatif de garantie.
Voilà, système participatif de garantie.
D'accord. Donc là, ça veut dire qu'il y a un contrôle qui est fait par des agriculteurs ?
Alors, donc, c'est un contrôle mixte, en fait, agriculteurs, donc producteurs et consommateurs, qui en fait vont dans un premier temps faire une visite chez le producteur pour vérifier la cohérence d'une part avec la charte Nature et Progrès et d'autre part avec le cahier des charges adéquat selon les productions. Et ensuite donc ce rapport de visite sera fourni à la COMAC, ce qu'on appelle donc la COMAC, c'est la commission mixte d'attribution et de contrôle, qui est en fait représentée par des producteurs sous mention Nature et Progrès et des consommateurs adhérents de cette association, qui vont donner leur avis, étudier chacun des dossiers, donner leur avis sur les visites et les contrôles qui ont été faits, et ensuite envoyer leur rapport à la COMAC fédérale, donc qui se fait à l'échelle nationale.
D'accord.
Et ensuite, donc cette commission nationale va délivrer ou non la mention. Peut émettre des réserves, demander à la COMAC locale de vérifier certains points. Voilà. Donc il y a un contrôle qui est différent, mais qui quand même est tout à fait sérieux. Et donc le et ça, ça n'est pas reconnu aujourd'hui au niveau européen, mais le système participatif de garantie est reconnu au niveau mondial par l'IFOAM et utilisé sur d'autres continents, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie. Donc il y a beaucoup d'autres continents qui utilisent ce système participatif de garantie, que ce soit sous la marque Nature et Progrès ou sous d'autres marques.
Pour revenir un peu sur ces différents labels, est-ce qu'on pourrait présenter, Nicolas, un peu d'historique sur les Nature et Progrès? On a parlé de biocohérence. Donc qui sont arrivés à des époques différentes, pour des causes différentes. Nous expliquer un peu comment sont nés ces différents labels et qu'est-ce qui a justifié cette mise en place?
Oui, donc alors l'agriculture biologique en France, ça a démarré avec Monsieur Raoul Lemaire qui a créé une méthode à base de fertilisation organique et à base de lithotam, donc alternance de ces deux apports. Donc c'était la méthode Lemaire-Boucher qui date à peu près des années 60. Il y a eu également la création aux environs des années 60 du premier groupement des agriculteurs biologiques qui vient de l'ouest de la France. C'est vraiment le démarrage dans les années 60-70. Et c'est l'époque aussi où Nature et Progrès est né. On a dénombré beaucoup de labels différents et beaucoup de voies différentes sur l'agriculture biologique. Et donc, à un moment, donc dans les années 80, il y a eu une reconnaissance par l'État de l'agriculture biologique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place un premier cahier des charges, je dirais, national, avec ce choix qui a été fait de faire la certification par tiers, donc de faire appel à un prestataire extérieur, une entreprise, pour faire les contrôles. Donc ça, c'était aux alentours des années 80. Et puis ensuite il y a eu le label européen qui a été mis en place, je pense, dans les années 90, en 91 exactement. Ouais.
En 2009, je pense.
Oui, 2009.
Pour répondre aux besoins européens de légiférer et puis de légaliser un peu les normes, qu'elles soient les mêmes dans tous les pays européens.
Voilà. Ouais. Donc historiquement, on peut dire que Nature et Progrès est là depuis 50 ans et effectue des contrôles depuis une cinquantaine d'années. Voilà.
D'accord. Et on peut dire que Nature et Progrès est né à la demande de producteurs, de paysans et également de consommateurs qui voulaient garantir la qualité des produits achetés.
Oui, ce qui caractérise Nature et Progrès, c'est réellement l'implication des consommateurs dans le système de contrôle. Et également dans la charte. Enfin, il y a une dimension sociétale qui est très très importante pour Nature et Progrès et qui voit l'agriculture biologique non pas uniquement en termes de marché, mais également pour une vraie évolution de notre société vers un mieux-être.
Tu viens de parler de charte. La charte. Est-ce que tu aurais des précisions à donner justement sur la charte qui existe au niveau de Nature et Progrès? Quels sont les impératifs que le paysan doit respecter?
Alors, oui, il y a notamment la saisonnalité, le respect de la biodiversité, la préservation des écosystèmes sauvages, le bien-être animal. On parle également d'une agriculture plutôt vivrière, une alimentation de qualité, le soin naturel apporté aux animaux, des éléments sur la gestion de l'eau, sur l'énergie, sur également la main-d'œuvre, ne pas faire appel à de la main-d'œuvre à bas coût. Également même interdire toutes les pratiques de dumping social, donc éviter d'importer des produits à bas coût sous prétexte que la main-d'œuvre est moins chère dans d'autres pays. Toutes ces pratiques sont interdites au sein de Nature et Progrès. Et ce sont des critères qui, malheureusement, aujourd'hui, dans le cahier des charges européen, ne sont pas du tout pris en compte.
D'accord. Donc, dans Nature et Progrès, on voit qu'il y a un engagement de société, un choix de vie qui va beaucoup plus loin que la simple production d'un produit sans insecticides, sans pesticides.
Voilà. En fait, le label européen offre une garantie aux consommateurs de consommer un produit sain, sans pesticides, sans intrants de synthèse. Mais n'offre pas d'autres garanties. Si demain un producteur veut faire appel à un groupement d'employeurs en Roumanie pour effectuer ses récoltes à bas coût, eh bien personne ne l'en empêchera. Et son produit sera quand même certifié bio. Je donne cet exemple-là parce que c'est un exemple qui existe aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des pratiques qui sont malheureusement devenues courantes en agriculture et on n'empêche pas les exploitants agricoles de devenir des exploiteurs, même s'ils travaillent en bio, malheureusement.
Bien, pour suivre à tout ce voyageur européen de main-d'œuvre et de population, on va écouter un peu de musique avec un groupe local qui s'intitule Little Box Song et le morceau préparé. And love is all.
Say, I'm just in the karaoke. It's not a fox solo with vodka. It has a little bit of blue rhythm, a blue, blue rhythm, but it has a meter that is tricky. A bit of wicked like a wiki. But when you dance with a new lover, there's true, true love in the
merci à Little Box Sound pour cette pause musicale. Pendant la pause, nous avons accueilli une équipe de FR3 qui profite donc de la semaine des radios associatives pour venir faire une découverte, une enquête sur Radio G. Donc nous allons revenir sur ce que disait Nicolas par rapport à Nature et Progrès, sur ces contrôles qui sont effectués donc auprès des paysans producteurs. Et donc je vais donner la parole à Francine qui, est en tant que consommatrice, est engagée auprès de Nature et Progrès dans ces contrôles auprès des paysans producteurs.
Oui, c'est exact. Moi, j'adhère à l'association de la Nature et Progrès à Anjou en tant que consommatrice. Et donc, je participe à quelques enquêtes en association, en binôme avec un producteur. Je vais donc dans les fermes où on a décidé que j'irai. Et puis, je participe à l'enquête avec... comme objectif de poser des questions de base auxquelles un producteur ne penserait pas forcément. Qu'est-ce que moi, consommatrice, j'attends de ce label Nature et Progrès, par exemple. Et j'attends tout ce que Nicolas a dit, j'attends de savoir que les animaux sont élevés correctement, qu'ils ont assez d'espace. J'attends aussi la certitude d'avoir une alimentation locale, fabriquée dans des petites fermes. Je veux pas manger de la nourriture industrielle. Je veux pas non plus manger de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde, toute bio qu'elle soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre ma région et de faire vivre l'agriculture de ma région pour pouvoir choisir ma nourriture.
Donc cet engagement que tu as donné à Nature et Progrès, tu l'as également donné aux AMAP.
Oui, c'est exact. D'abord aux AMAP, puisque mes copines et moi, on a créé notre AMAP il y a 11 ans maintenant, à Brain-sur-l'Authion. Et c'était déjà cet objectif de maintenir l'agriculture paysanne locale en place pour avoir toujours le choix de sa nourriture. Parce que le jour où il n'y a plus les petits paysans, eh bien, il ne nous restera que l'alimentation agro-industrielle sur laquelle on n'a aucun regard. Et donc je participe au maintien de l'agriculture paysanne en mangeant leurs produits, en achetant leurs produits au travers des AMAP. Et maintenant je pense que je vais un peu plus loin dans cette recherche-là et dans ce maintien-là en participant aux enquêtes pour Nature et Progrès.
D'accord.
Et j'en suis très contente parce que c'est super d'aller dans leur ferme.
Pour faire un peu le contraire de tout ce qu'on vient de dire, quand on discute d'agriculture biologique avec certaines personnes qui n'ont pas fait ce choix-là, on entend fréquemment « le bio, ça n'existe pas », puisque de toute façon l'air est pollué, les eaux de pluie sont polluées. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce genre de phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois?
La petite phrase de Pierre Rabhi qui dit que c'est en mettant cette petite goutte qu'on pourra faire changer les choses. Je pense que si on continue malheureusement à faire le constat qu'on vit dans un environnement pollué mais qu'on fait rien pour le changer, ben, ça risque pas de s'arranger. Donc, manger des produits biologiques, c'est une garantie que sur les terres sur lesquelles les produits ont été cultivés, il n'y a pas eu de produits chimiques, de pesticides. Même s'il peut y avoir éventuellement, en effet, des pollutions extérieures, c'est déjà une
c'est moins pire.
Au moins, il y en a beaucoup moins que sur des produits sur lesquels on a pulvérisé directement des poisons violents. Donc voilà.
Je pense que c'est aussi une des raisons qui a motivé ton choix, Francine, de monter une AMAP et de savoir ce qu'il y avait dans ton panier.
Oui, au début, c'était pas forcément, on y vient petit à petit, au début, c'était pas forcément aller à 100% vers une alimentation bio. C'est en faisant les choses qu'on découvre l'ampleur du problème. Et il est bien évident que dans la charte des AMAP, en tout cas, c'est pas spécifiquement écrit que le paysan doit être en certifié bio. C'est écrit qu'il doit travailler sans pesticides, sans produits chimiques ajoutés, ça c'est clair. Mais on est dans un tel climat de confiance et de connaissance dans une AMAP par rapport à nos paysans qu'on peut accepter qu'il n'ait pas payé la certification bio, tout en le croyant quand il nous dit qu'il met pas d'engrais chimiques, qu'il ne met pas de pesticides, parce que on est accueilli sur sa ferme, parce qu'il nous explique comment il fonctionne, parce que on voit bien en allant se promener partout dans ses hangars, sous ses serres et dans ses étables qu'il y a aucun bidon de produits issus du pétrole par exemple et des choses comme ça. C'est la confiance par la transparence. Maintenant, la mention Nature et Progrès va évidemment beaucoup plus loin. Et quand je vais visiter un paysan sur sa ferme et qu'on lui pose des questions, on a un cahier des charges, hein, on a vraiment des questions très très précises et pointues à lui poser. On regarde ses factures aussi, on regarde sa comptabilité, tout ça de la même façon. Mais on s'aperçoit que lui, il prend prétexte de nos questions pour montrer sa ferme. Il est fier de ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de trouver un paysan qui est fier de son travail. A contrario, ceux qui ont créé la première AMAP dans le Maine-et-Loire, à la base, ils n'étaient pas bio. Ils y sont passés avec l'aide des AMAPiens au bout de 5 ans. Et une des phrases qu'avait dit un des paysans, c'était « Je vous ouvre même pas la porte, là, j'ai trop honte. Je vous ouvre même pas la porte. » Ceux qu'on rencontre maintenant dans cette petite agriculture paysanne qu'on soutient, ils sont fiers de leur travail.
Ça, c'est très important, oui.
Oui.
Et quand on parle aussi des gens qui ont du mal à adhérer à l'agriculture biologique, ils te disent, de toute façon, une fois qu'on a le label, c'est bon, quoi, on peut faire ce qu'on veut. Donc, je pense qu'on peut parler aussi de la fréquence des contrôles, peut-être du coût des contrôles. C'est pas gratuit pour un paysan de se faire labelliser ?
Non, c'est pas gratuit. Alors, pour un maraîcher comme moi qui a un atelier assez simple à contrôler puisque il y a pas de transformation, il y a pas d'élevage, c'est un seul atelier de production, ça représente un budget d'à peu près 500 euros par an. Donc la fréquence des contrôles, c'est ce que je disais tout à l'heure, 2 fois par an. Et c'est quand même un contrôle assez rigoureux et sur lequel les consommateurs peuvent avoir confiance. Ça, j'insiste là-dessus. Même si d'un point de vue éthique, ça peut nous paraître pas tout à fait suffisant, mais c'est déjà une bonne garantie pour le consommateur. Mais je voudrais revenir sur l'engagement aussi des AMAP, puisque c'est l'émission des AMAP, pour dire que ce qui est important pour nous paysans en AMAP, c'est l'engagement citoyen. Il est présent dans la charte Nature et Progrès, mais au sein des AMAP, c'est très très important, puisque on sent un réel soutien et un investissement des consommateurs, des citoyens dans nos fermes, par la présence, par les coups de main, par le financement de la production, et ça c'est très important et c'est très valorisant en fait pour notre travail.
Et du coup, ces paysans-là n'ont pas du tout envie de nous gruger, parce que on est des amis, en fait. On est pas des partenaires, mais pas loin, quoi.
Ah si, vous êtes partenaire, ouais. Vous êtes partenaire de la ferme.
Et dans le cas d'un agriculteur donc, qui se convertit, la conversion à la biologie ne se fait pas instantanément d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'au niveau de Nature et Progrès ou des autres instances de contrôle, il existe une forme d'accompagnement et d'aide aux paysans qui, parce qu'il peut y avoir encore quelques dérives, les gens ne...
Alors, sur le label européen, il n'y a pas réellement d'accompagnement en tant que tel. Y a une période de conversion. Donc pour les cultures dites annuelles, une période de conversion de 3 ans, et pour les plantes pérennes, comme par exemple sur des fruitiers, on va être sur une période plutôt de 5 ans. Pour ce qui est des autres labels, comme le label, l'avantage par exemple du label Nature et Progrès, c'est qu'il y a aussi un contrôle par les pairs et donc un accompagnement à la transition qui est plus important. Puisque lors des contrôles, ce n'est pas uniquement du contrôle, mais aussi de l'accompagnement où tu pourrais faire comme si, ou sur des problématiques techniques particulières, on peut s'entraider, on peut se donner des tuyaux, on est réellement dans la coopération. On n'est pas uniquement visité par un prestataire qui va nous dire ça rentre dans la case et ça n'y rentre pas. Il y a une réelle démarche d'entraide.
D'accord.
Et de conseil.
Donc ça va aussi dans le... Oui,
pendant tout ce temps-là de la conversion, il faut savoir que pendant qu'un paysan est en conversion, il n'a plus le droit d'utiliser les produits chimiques qui faisaient la rentabilité de son terrain avant. Et en même temps, il ne peut pas vendre ses produits au prix d'un produit bio puisqu'il n'est pas encore en bio. Donc c'est peut-être un moment, une étape difficile à passer pour un paysan au niveau financier. Et dans ces cas-là, les consommateurs en AMAP sont un réel soutien puisqu'ils lui permettent d'écouler ses produits au même prix en fait que s'ils étaient bio.
D'accord. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce qu'en 30 secondes, un de vous deux pourrait juste dire un mot sur ce qu'on entend parler de culture raisonnée ?
Oh, l'agriculture raisonnée.
En 30 secondes.
L'agriculture raisonnée, c'est en fait un label, je ne sais pas si c'est un label, une mention qui a été mis en place en 2002, mais en gros c'est un copier-coller de l'agriculture conventionnelle, autorisation d'utiliser des pesticides à condition de noter les interventions. Bon, c'est un petit coup de